Bonjour, je suis Arthur Depin et vous écoutez La Voix des Bulles.
Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui en pince pour les zombies.
On va pas trouver de mieux.
Bonjour à tous, nous sommes au festival des Calanques et des Bulles et nous accueillons aujourd'hui Arthur Depince. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Je suis accompagné comme à l'accoutumée par Thio qui est à ma droite.
Bonjour.
Et par Tizak à ma gauche.
Bonjour à tous.
Alors vous allez peut-être entendre un peu d'émotion dans notre voix, c'est un peu notre première émission en public, donc on a un peu de stress, on n'a pas l'habitude.
Ça va bien se passer, je suis sûr.
Ouais.
Rassure-toi, petit Pierrick.
Voilà, et donc, on a un peu des frissons et on a un peu peur, donc on espère qu'on va pas trop bafouiller et pas trop dire de bêtises, ce qui nous arrive malheureusement très souvent.
Parle pour toi.
Alors, on va revenir dans une première partie d'émission sur un peu l'histoire de la vie d'Arthur.
Ta vie, ton œuvre.
Voilà, et une deuxième partie d'émission où il nous parlera de BD qui l'ont marqué, qui lui ont plu ou influencé. Et on commence de suite en parlant un peu de ta formation. Tu as commencé à bosser, tu as fait une formation aux Arts Déco.
Oui, aux Arts Déco de Paris, où il n'y a pas de cours de bande dessinée. Il y a à peu près tout. Il y a sculpture, architecture, vidéo, graphisme, illustration. Moi, j'ai fait animation, par exemple, dessin animé. Mais il n'y a pas de cours de BD, ce qui d'ailleurs n'est pas plus mal, parce que je ne suis pas trop un partisan des cours de BD. Je trouve que la BD, ça s'apprend en apprenant à dessiner, mais... en même temps, le fait d'avoir aux Arts Déco plein de cours différents, ça permet un peu de s'aérer la tête et découvrir plein de styles différents, de se trouver un style à soi, en fait. C'est ça le danger des cours de BD, c'est que ça formate un peu. Donc j'ai fait les Arts Déco de Paris, et j'ai ensuite travaillé dans le dessin animé, puis dans l'illustration, et je suis revenu à la BD après, il y a à peu près 6-7 ans. Je dis revenu parce que j'en faisais en fait quand j'étais ado et j'avais laissé tomber au profit d'autres matières pour finalement retomber dedans. Mais ce qui finalement est pas plus mal, ce qui m'a permis de passer par plein de styles différents,
De t'enrichir en cours de route.
Oui, c'est-à-dire que notamment aux Arts Déco, j'ai fait plein de matières. J'ai notamment fait du graphisme, le graphisme en fait, c'est pas que tout ce qui est logo, identité visuelle, c'est ça, mais il y a aussi c'est tout ce qui est affiche, tout ce qui est, on cherche vraiment un impact visuel de manière très simple. Je dirais que c'est un peu l'inverse de l'illustration. J'ai eu des cours de graphisme et ce qui m'a permis d'aborder des thématiques un peu sociales, qui m'ont un peu sorti de la tête de l'heroic fantasy dans lequel je baignais depuis que j'étais ado. Et donc tout ça, je pense, imbriqué l'un dans l'autre, fait que ça aboutit un peu à ce que je fais aujourd'hui, qui est un peu, je pense, influencé par toutes ces matières différentes. Voilà.
Tu voulais faire de la BD au départ?
Oui, quand j'étais ado, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de dessinateurs qui pensent à la BD en premier lieu, parce que pour faire une BD, il y a besoin d'être seul, il n'y a pas besoin de toute une équipe, comme pour le cinéma. Et je voulais aussi raconter mes histoires, et donc, mais sauf qu'après, faut dire qu'aux Arts Déco, ils méprisaient un peu la BD à l'époque, ils étaient pas très BD, donc ils nous détournaient de ça, mais au final, ça s'est revenu au galop, on va dire. Et donc, je fais pratiquement que ça, parce que je trouve que c'est un rapport qui est vachement sain, c'est-à-dire qu'on a un rapport direct avec l'éditeur, alors que tout ce qui est cinéma, animation, il y a 15 000 personnes qui décident, il y a beaucoup d'argent en jeu, il faut à peu près, pour faire un dessin animé, un court-métrage, il faut à peu près 500 000 euros, pour faire un long-métrage, il faut à peu près au minimum 4 ou 5 millions d'euros, donc c'est de l'argent qui est dur à réunir, et donc ça suppose qu'il y a plein de gens qui mettent des ronds et qui du coup donnent leur avis, disent non moi je vais changer ça, il faut tout le temps faire des concessions, alors que la BD on a un rapport uniquement avec l'éditeur ou l'éditrice et c'est tout, et si la BD se plante c'est pas non plus dramatique pour l'éditeur, donc les enjeux ne sont pas les mêmes, du coup il y a beaucoup moins de pression. Voilà.
Ça t'offre plus de liberté.
Ah, complètement. Et puis en plus de ça, il y a moins de tabous puisque il y en a encore beaucoup dans l'animation qui demeure quand même un truc pour enfants entre guillemets. Alors que la BD a fait sa mue dans les années 70, où il a commencé à y avoir de la BD pour adultes. Et je dirais que maintenant, on est à peu près libre de faire à peu près tout ce qu'on veut, quoi, en BD.
D'ailleurs, c'est par ça que tu as commencé la BD pour adultes.
Alors j'ai commencé là-dedans. Alors faut savoir que Péché Mignon, en fait, c'était au départ, curieusement, c'était moi j'étais plus versé dans le tout ce qui était aventure, mais en fait c'était une commande d'un magazine qui s'appelait Max Magazine que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître parce que c'était un magazine pourtant qui a duré très longtemps. C'était un magazine pour jeunes. En fait, au départ c'était pour jeunes, puis c'est devenu un magazine pour mecs qui abordait des thématiques très philosophiques comme les armes à feu, la drogue et les gonzesses. Enfin voilà, ouais, en gros c'était ça.
Mais t'es américain comme magazine ou quoi ?
Non, c'est une franchise. Enfin, il y en avait dans plein de pays. Enfin, il y avait alors en France, il y avait 20 ans qui était plutôt pour filles et Max qui était plutôt pour mecs. Bon, et c'est le public visé, c'était les ados ils embauchaient beaucoup d'illustrateurs et donc je faisais des illustrations pour eux très régulièrement. Et un jour, ils ont vu des petits bonhommes que je faisais un peu rondouillard et un peu sur le thème du sexe et compagnie, et m'ont dit, tiens, est-ce que ça te dirait pas de faire une BD avec ces personnages ? J'ai dit, ok. Pour la petite histoire, d'ailleurs, ils m'ont demandé de trouver un nom au personnage, j'ai dit, au rédacteur en chef, vas-y, choisis, et c'est lui qui l'a appelé Arthur, donc je me suis retrouvé bloqué, en fait, et bon, avec cette espèce de quiproquo qui fait que tout le monde croit que c'est moi, mais en fait, pas du tout. Voilà, je précise quand même. C'est pas autobiographique, mais en fait, voilà, donc j'ai commencé à faire ce qui s'appellera plus tard Péché Mignon dans Max Magazine et qui a ensuite été qui a intéressé le rédacteur en chef de Fluide Glacial, et c'est comme ça que j'ai remis un pied, on va dire, dans la BD, enfin mis un pied tout court d'ailleurs, voilà.
Péché Mignon, justement, t'as fait les deux premiers tomes tout seul, mm-hmm. et ensuite t'as travaillé sur les deux tomes suivants avec Maya Mazorette. C'était
oui.
l'envie d'apporter un point de vue féminin, de relancer un peu, enfin repartir sur l'humour autour du sexe, mais en ayant le point de vue de l'autre côté.
Ou alors c'était une demande de l'éditeur.
Alors c'était les deux en fait. C'était les deux parce qu'à l'époque, bon, je démarrais un peu dans la BD et quand on démarre dans la BD, les éditeurs sont un peu méfiants en ce qui concerne nos qualités de scénariste. Fluide Glacial, ils veulent des trucs humoristiques. Moi, j'ai un peu de mal à faire que des trucs humoristiques, que des planches avec un gag à la fin de chaque planche. Donc j'ai un peu ramé quand même pour le tome 1. Et le tome 2, en fait, il m'a dit, je veux que tu bosses avec des co-scénaristes. Bon, je dis, ok, voilà. Donc j'ai travaillé avec des copains. Et tome 3, idem. Et là, je lui dis, j'ai découvert une blogueuse qui est très drôle, qui s'appelle Maya Mazorette. Il m'a dit, ok, vas-y. Donc voilà, donc j'ai travaillé avec Maya. Et le tome 4, on a travaillé tous les deux. En revanche, chez Spirou, là, ils m'ont donné carte blanche pour le dessin et pour le scénario, ce qui était un risque un peu pour eux. Et donc, ce qui m'a permis de, enfin, vraiment faire un truc à moi tout seul. Voilà. Et oui, et pour répondre à ta question tout à l'heure, oui, effectivement, c'était pour avoir un point de vue féminin, parce que, bon, évidemment, je peux pas mettre à la place des femmes, et d'ailleurs, j'ai réalisé que les femmes étaient souvent beaucoup plus trash que les hommes dès qu'il s'agit d'aborder la sexualité, et des trucs que moi, personnellement, j'aurais jamais osé écrire. Bon, les filles, aucun problème.
Ça donne une forme de légitimité, finalement, aussi.
En plus, oui, c'est vrai que la BD, il y a une BD, entre guillemets, pour les mecs et fait par des mecs parce que c'est vrai qu'à la base c'est quand même très masculin, et la BD érotique des années 80-90 telle qu'elle existait dans les journaux que je piquais aux marchands de journaux à côté de chez moi pour les lire chez moi, voilà. Non, on l'a tous fait, hein, ça va. ça c'était de la BD pour mecs, quoi. C'était du truc érotique destiné à être agréable à l'œil, etc., etc. Moi, je voulais quand même faire un truc avant tout humoristique parce que c'est Fluide Glacial, et puis aborder le truc d'une autre manière. Enfin, c'est-à-dire, je voulais pas devenir un dessinateur érotique, quoi. Je voulais m'adresser aussi aux femmes et que ça parle de sexualité plus que ça ne montre du sexe. D'ailleurs, les personnages sont pas faits pour être excitant entre guillemets quoi. Donc voilà.
C'est pas des Apollons et des Vénus beauté, non.
Non, non, c'est sûr. C'est pas voilà. Ou alors si quelqu'un vraiment est excité, je pense qu'il y a un souci quoi. Mais voilà, c'est pas le voilà l'archétype du fantasme que ce soit pour homme ou pour femme quoi.
Et le changement de nom de Fluide Glacial sur les tranches en Fluide Glamour, c'était
un. Ah, ça, c'était un choix éditorial parce que en fait Fluide Glacial. Alors il y a eu Péché Mignon et puis il y avait le Anaïs qui s'occupait, qui est une amie à moi d'ailleurs, qui s'occupait du magazine au départ. Enfin, elle s'est vue confier donc ce qu'ils ont appelé Fluide Glamour, qui était la branche entre guillemets. Aujourd'hui, on appellerait ça girly, mais c'est hyper débile comme mot, mais enfin plus un peu féminine de Fluide Glacial. Ça s'appelait Fluide Glamour. Ils ont changé de nom en Fluide.g à cause du magazine Glamour qui a collé un procès. Et puis là, là, ça s'est arrêté tout simplement parce qu'elle est partie chez Delcourt et que maintenant son magazine s'appelle Bisous, qui est pas tout à fait le même magazine puisque c'est plus seulement BD. Maintenant, c'est un magazine féminin au sens large, hyper décalé, mais un magazine féminin quand même, avec un peu de BD, mais qui a pris ses distances avec énormément avec Fluide Glacial.
T'as fait aussi des illustrations pour comment pour des guides érotiques.
Oui.
Assez varié. Alors, je vais pas donner tous les titres eu égard au jeune public.
Oui,
j'ai les oreilles.
C'est un exercice dans la continuité de Péché Mignon.
Oui, ou... c'était à peu près au même moment d'ailleurs. Et bon, ça, j'ai arrêté au bout d'un moment, mais c'est oui, c'était très sympa d'ailleurs de bosser sur ces couves. Mais bon, toutes les meilleures choses ont une fin, et je voulais pas trop non plus. Enfin, j'avais envie de passer à autre chose, quoi.
Éviter qu'on t'enferme dans une case un peu aussi, peut-être.
Oui, il se trouve que j'avais rencontré un dessinateur érotique qui s'appelle Amsterdam, qui d'ailleurs fait beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec l'érotisme. Enfin, il fait bon, de l'érotisme, mais il fait aussi plein d'autres choses. Et en fait, c'était un peu sous forme de conseil. Il m'a dit, écoute, ouais, attends pas 20 ans de carrière pour faire d'autres choses, sinon t'as une étiquette de dessinateur érotique qui ne s'en va jamais. Et lui, c'est ce qui lui est arrivé. Enfin, il fait par ailleurs des super beaux dessins, notamment sur la danse ou sur les corridas à cheval ou des choses comme ça. Mais son nom évoque l'érotisme et il me dit mais c'est horrible parce que quand je fais une expo de avec des femmes nues, bah, y a plein de monde, il y a tous les journalistes qui sont là. Par contre, quand je fais une expo sur la danse ou le tango ou machin, alors il y a plus personne. Et voilà. Donc en même temps, j'avais très envie de faire autre chose. Enfin, même d'ailleurs depuis très longtemps, le scénario des crabes, je l'ai trouvé. Enfin, c'est même avant Péché Mignon. Enfin, c'était des envies que j'avais et donc j'ai enfin pu les réaliser, quoi.
On va passer à Zombielennium.
C'est pour moi ça.
Ouais, c'est pour toi.
Ouais, c'est pour moi ça. Donc Zombielennium. Pour l'instant, on en est à 2 albums. Le troisième a commencé à être prépublié chez Spirou, c'est ça ?
Ouais.
Pour faire une petite présentation, donc c'est l'histoire principalement d'Aurélien Zaner, qui, enfin, la présentation au début, c'est un peu un gros loser, hein. Il se retrouve célibataire, il se retrouve à faire un braquage minable à la sortie duquel il se fait renverser, et il se fait renverser par une voiture qui contient trois acteurs du parc d'attractions Zombielennium.
Voilà.
Dont le directeur du parc d'attractions qui se trouve être Monsieur Von Blot, qui est un vampire et qui donc le ramène à la vie de cette façon-là. Et il se fait embaucher donc de cette façon-là dans le parc Zombielennium et on découvre petit à petit ce personnage qui a un background bien plus profond que ce qui pouvait apparaître dans les quelques premières pages. Et notamment sa rencontre avec Gretchen, une sorcière qui elle aussi a de la profondeur dans le personnage. Bon, tu vas raconter un peu les péripéties de ces deux personnages.
Oui, en fait, bon, le thème, c'est vrai que, alors, je vais raconter d'ailleurs la jeunesse de cet album. Il y avait, que j'avais à ce moment-là très envie de faire autre chose que de l'érotisme et de faire une BD d'aventure. Il se trouve que je connaissais bien le rédacteur en chef de Spirou. Et qui m'a appelé un été, l'été 2008 ou 2007, pour me commander une couverture pour le spécial Halloween de Spirou. Bon, j'étais là, ok, pourquoi pas. Enfin, c'était pas du tout ce que je faisais à ce moment-là, mais j'ai dit, bah ouais, après tout, c'est vrai que moi j'ai toujours adoré les monstres, j'en dessinais plein quand j'étais ado. Allez, tiens, ok, j'accepte le défi. Donc, j'ai fait une couverture, je pense pas la voir ici, mais dans laquelle on voit, en fait, un squelette, un vampire, un zombie, enfin, toute une galerie de monstres. Et j'ai adoré faire ça. Et lui a vraiment apprécié la couve et il m'a dit à un tel point qu'il m'a dit, écoute, est-ce que ça te dirait de faire une série enfin au moins un album avec tous les personnages là que tu viens de dessiner. Ce qui est quand même une prise de risque énorme de sa part, parce que c'est vrai que rien ne pouvait garantir que j'allais pouvoir tenir un album avec juste des personnages, et j'ai dit ok. Et après je me suis dit non, j'ai pas envie de faire juste une histoire avec des monstres qui font peur, parce que il faut justement un côté décalé, et je me suis dit alors que feraient des monstres s'ils vivaient maintenant? Et ben je me suis dit bah ils paieraient leurs impôts, ils travailleraient comme tout le monde, voilà, ils iraient au boulot le matin.
Et une chorégraphie de Michael Jackson.
Ils feraient tout un tas de ce qu'on, en fait, ils feraient ce qu'on fait nous, quoi. C'est-à-dire, ils seraient pas planqués, parce que maintenant on peut pas se planquer. Enfin, le fisc nous retrouve, on est fichés, voilà, on est obligé d'avoir une vie sociale.
Même les momies sont fichées.
Voilà, soit d'avoir un boulot, soit de pointer à Pôle emploi, mais on peut pas, des monstres ne peuvent pas se planquer, quoi. Voilà, tout est découvert. On n'est plus autant des campagnes ténébreuses et tout ça. Et donc, pour moi, les monstres travaillent. Je me dis, ok, alors ils vont travailler en entreprise. Et je me dis, ça m'intéresse parce qu'en plus, moi, ça me fascine un peu le monde de l'entreprise. Alors, pour la petite histoire, voilà, mon frère était étudiant ici, d'ailleurs. Pour la petite histoire, c'est quand même rigolo. Il était, alors à l'époque, ça s'appelait Subdoco Marseille, ça s'appelait pas Euromet Management. Et ainsi que mon petit frère aussi a fait une école de commerce. C'est vrai que quand j'étais petit, j'étais environné de gens qui travaillaient soit dans le commerce, soit dans la banque, soit dans le conseil.
Mais que fais-tu de ta vie?
Moi j'étais un peu le saltimbanque de la famille, ou enfin c'était il était rigolo avec tes dessins, enfin, et bon, et en fait
que tu travailles vraiment,
et mais du coup c'est un monde qui m'a toujours fasciné. Oui, j'ai entendu ce genre de truc, c'est quoi ton vrai métier? Mais c'est mon vrai métier, voilà. Donc c'est j'étais un peu quand même fasciné par tout ce monde là et d'autant plus que j'ai côtoyé aussi des gens qui après ont fait des grandes écoles, etc. Donc j'avais envie que ce soit l'univers de l'entreprise, c'est-à-dire un univers qui pour moi est un univers complètement de quotidien banal, mais en même temps où il y a une espèce de course au pouvoir. C'est-à-dire que ça a un côté un peu saga industrielle avec un patron, des employés, et puis évidemment une quête du pouvoir, parce que qui dit entreprise dit pouvoir et dit voilà. Divide entreprise, voilà. Et donc j'ai eu l'idée de mélanger les deux, c'est-à-dire un peu un univers de monstres et en même temps un univers de genre The Office avec toute une hiérarchie, parce que je trouvais que les monstres aussi avaient pouvaient facilement trouver une hiérarchie. Bon, il se trouve dans Zombielennium, les patrons, donc les ceux qui possèdent le parc sont les démons. Ensuite, le gérant est un vampire. Ensuite, il y a les loups-garous qui sont un peu les cadres et tout ça. Et puis les zombies qui sont les
la basse caste,
les ouvriers. Enfin, les voilà. Et alors, il y a du coup des tensions, etc. Il y a ce qu'on retrouve dans toute la vie d'entreprise. Et donc c'est parti comme ça. Et alors je me suis dit enfin, qu'est-ce que ça pourrait être comme entreprise finalement où il pourrait bosser à visage découvert? Et je me suis dit évidemment un parc d'attractions, puisque par définition les gens du coup penseront que ce sont des comédiens, or ce sont des vrais monstres. Et en fait ce parc d'attractions a été créé par justement le Francis Van Blot, le vampire, pour permettre à tous les monstres qui se baladent un peu partout d'avoir un lieu où ils se retrouvent et d'avoir une vie sociale,
chez eux, ouais.
Et de côtoyer, d'avoir un chez eux, de côtoyer les humains, et puis de eux de se rencontrer à la machine à café le matin. Et donc c'est presque une issue un peu un peu humaniste en fait, hein, pour tous ces monstres. Donc c'est né comme ça, et puis j'ai démarré le tome 1. Je me suis dit il faut qu'il y ait un personnage qui se retrouve embauché, ça me paraît évident comme début d'histoire. Et donc c'est ce personnage qui s'appelle Aurélien Zanner et qui rencontre cette sorcière qui s'appelle Gretchen. Je raconte pas trop.
Oui, parce qu'il y a le final du tome 1 laisse quand même de grandes surprises.
Oui, la fin du tome 2 aussi.
Oui, oui, non, puis bon, mais en même temps, c'est tout ce qui est feuilletonnant. Alors, faut savoir que nous, auteurs de BD, on est hyper influencés en ce moment par les séries américaines. Où chacun a ses séries de prédilection. Moi, il se trouve que j'adore Lost, par exemple. J'adorais parce que c'est fini. Mais je trouve que tout n'est pas parfait. Mais ce sont les rois du cliffhanger, mais à la limite que je place presque au niveau d'Alexandre Dumas ou de. Enfin, c'est-à-dire que je dis pas que la réponse qu'on a à l'épisode d'après est forcément géniale, mais ça vous laisse à la fin d'épisode sur un sur des trucs, mais on est là, on est, je veux savoir la suite. Et c'est hyper influençant d'ailleurs. Alors bon, il y a beaucoup d'autres séries qui sont hyper intéressantes. Je pense notamment au Revenant, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu.
J'ai pas vu.
Super bonne série à voir, série française, mais j'adore le mais. mais très très bonne série. Non, mais j'ai pas tout vu non plus, mais c'est voilà. Et donc c'est vrai qu'on est tous influencés par les séries, et comme ça se paraît dans le journal de Spirou. Donc il y a un côté feuilletonnant qui font que les gens reçoivent les chapitres les uns après les autres. Et ben évidemment on est pris là-dedans, et c'est un vrai bonheur de enfin pouvoir faire une BD, pour moi en tout cas, de faire une BD d'aventure. Ce qui tranche quand même pas mal avec le côté histoire d'un gag qu'on nous impose dans Fluide ou quelque chose comme ça.
Tu savais comment tu allais être prépublié. Est-ce que tu travaillais ton histoire en sachant qu'il allait avoir tant de pages dans tel Spirou pour justement jouer sur ces effets de...
Alors oui, alors j'écrivais évidemment, en tout cas par album, j'écris. Le premier j'avais écrit à l'avance. Le deuxième aussi. Là, j'ai carrément écrit non seulement le 3, mais carrément toute la... Enfin, je sais ce qui se passe jusqu'au 6, parce qu'il y en aura 6. Après, la répartition par numéro, ça, c'est un peu en fonction de... Parce qu'évidemment, en cours de route, il y a des trucs qui changent, il y a des idées qui viennent. On se dit, oh ben non, en fait, je vais faire ça. Donc, évidemment, parfois, il y a un petit chamboulement, mais rien n'est vraiment définitif, mais je sais à peu près où je vais. Enfin, voilà. Enfin, je sais où je vais. J'en suis sûr. Voilà.
Il y a un gros site web qui a été lancé au lancement de la série. Toutes les séries n'ont pas droit, je dirais, à ce genre de plan de com. C'est un gros plan de com, justement, ce site web.
Disons qu'ils ont mis le paquet chez Dupuis pour le lancement du tome 1. Ils se sont dit, ouais, on va faire un site web qui n'est pas tellement mis à jour, mais qui était super parce qu'il y avait un jeu où les gens pouvaient se déguiser en monstre et envoyer la photo pour participer à un concours. Alors, il y a des trucs super marrants, genre... Une momie avec du PQ, enfin bon, il y a des trucs rigolos. Et là, c'était surtout pour le tome 1, mais là, on va le remettre à jour pour le tome 3. Ouais.
Qui sort quand ?
Le 8 novembre. Oui, je connais la date depuis la semaine dernière. Enfin, voilà.
On va passer à la marche du crabe. La marche du crabe, c'est pour toi, Thio.
C'est pour moi. Donc, la marche du crabe, c'était en 3 tomes. L'histoire est terminée pour celle-là. On étudiait la petite vie du crabe carré de Gironde.
Oui.
Sa dure vie entre deux pierres pour celui qui avait de la chance. S'il y avait de l'espace entre les deux pierres, ou malheureusement, juste une flaque d'eau entre deux petits cailloux de 20 cm. Mmh. Voilà. Et toute cette histoire-là va du coup découler sur autre chose, je crois. C'est surtout ça que tu avais... Enfin, le crabe est presque un prétexte pour parler d'écologie, de plein d'autres sujets, on va dire, qui sont justement en rapport avec... Tout à l'heure, on parlait du 9e art comme art d'engagement. Mm-hmm. Est-ce que voilà, c'était aussi un souhait de ta part au début ?
Je pense pas que ce... Alors, c'est pas militant, en fait. C'est-à-dire que c'est plus c'est une fable. En fait, moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est une fable avec des animaux. J'avais beaucoup aimé quand je l'avais lu plus jeune, La ferme des animaux d'Orwell, et modestement c'est aussi un peu ce que dans cette veine là que j'ai voulu amener les crabes, c'est-à-dire une fable avec des animaux qui parlent des humains, tout simplement. Alors il peut y avoir un petit côté politique, il peut y avoir un petit côté ceci cela, mais c'est en tout cas pour moi une fable sur la bêtise, sur la norme, en fait. Ne serait-ce que les crabes qui au début marchent tous dans une direction différente, mais ne peuvent pas tourner, donc ils se croisent jamais. Et le pire, c'est qu'ils sont persuadés que c'est une tare génétique, donc ils vont rien faire pour essayer de changer les choses. Et en plus, ils vont essayer ils se persuadent que c'est une forme en plus de fierté, de supériorité qu'ils ont par rapport aux autres crabes. Là, on est vraiment dans la bêtise. Et je voulais justement faire évoluer ces crabes. Alors, il y a eu, dans un premier temps, un court-métrage. Enfin, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler. Enfin, je ne voudrais pas non plus répondre à 40 000 questions d'un coup. Donc, n'hésite pas à me couper. Il y avait donc un court-métrage que j'ai fait en 2004, qui a tourné sur Internet, etc. Et j'avais envie de faire deux suites à ce court-métrage. Et ces deux suites sont devenues, en fait, une BD. Mais ce que je raconte dans l'un ou l'autre, de toute façon, est un peu la même chose, quoi.
Et est-ce que tu avais envie de en faire peut-être un long métrage justement de cette marche du crabe ?
Oui, il y a un projet là-dessus.
Il y a eu un moment un projet. On peut toujours voir sur YouTube d'ailleurs une bande-annonce avec marqué le long métrage. Donc ça m'embête parce que du coup il y a jamais eu de long métrage. Mais c'est d'ailleurs le scénario était le même que celui de la BD en fait. Parce que j'avais écrit le scénario du long métrage sous forme de BD. de storyboard un peu. Et voyant que ça prenait des plombes à se faire et que c'était en stand-by, j'ai envoyé ce storyboard à des éditeurs qui ensuite ont... d'ailleurs l'éditrice de Noctambule qui m'a dit oui pour les faire ça sous forme de 3 bouquins.
Pour ce long métrage, il était prévu que tu sois le réalisateur ?
Ah oui, tout à fait.
Ça, t'as pas laissé un petit goût d'inachevé ? T'as pas envie de faire de la réalisation sur un
autre
projet ?
Ah bah si. Il y a un projet avec Zombillenium aussi, de long métrage. Et puis les crabes, après tout, on sait jamais. Peut-être que ça va
peut-être se... stand-by, non ?
Ça va peut-être ressurgir, hein, j'en sais rien. Mais j'aimerais beaucoup, ouais, parce que c'est vrai que la BD, moi j'adore, c'est génial. Mais venant de l'animation, il y a quand même des choses qu'on peut exprimer... comme ça et pas avec la BD. Enfin, les deux sont un petit peu différents et il y a des scènes. Je pense notamment à la scène au début de Zombillenium. On voit la momie qui marche en race campagne. Bah, évidemment, moi je vois l'image fixe avec les pylônes et les maisons et puis la. Ah merci. Et puis le personnage qui traverse l'écran comme ça, une scène qui dure un peu longtemps. C'est vrai que on imagine les trucs peut-être plus sous forme animée.
Mais fixer le micro.
En fait, ouais, je veux bien. Mais ouais. C'est vraiment utile, ça.
Oui. Moi, je l'ai pas et
malheureusement.
Ah, d'accord. Ok. Ça retient les postillons.
C'est
donc
ça.
Voilà.
Ça va, oui.
Ça nous permet de faire des prélèvements génétiques.
Ah d'accord, c'est intéressant.
On va te cloner.
On clone les auteurs après.
Ah, d'accord. Pour en faire quoi d'ailleurs pour
on sait jamais.
Ouais. On les envoie travailler en Chine.
Servir de jouets sexuels, c'est ça. Ouais. Bon. Et voilà. Donc en fait, voilà, c'est on ne sait jamais. Oui, j'aimerais bien que un projet ou l'autre existe sous forme de film. Évidemment, ça serait super.
Voilà. Et ta technique de travail, donc du coup sur un petit peu tous les albums, que ce soit Zombillenium, que ce soit La Marche du Crabe, comment est-ce que tu travailles en fait dans la composition de tes planches
Justement, j'ai amené mon matos. Alors c'est pas l'ordinateur que j'utilise, c'est un petit PC pour montrer comment je bosse. Je sais pas quel est le programme, mais je peux peut-être montrer maintenant.
Bien volontiers,
un petit démo.
Donc j'utilise Illustrator. Il y en a peut-être qui connaissent ici. Généralement les gens connaissent pas trop. Il y a deux programmes surtout pour dessiner. Il y a Photoshop et Illustrator. Alors Photoshop, beaucoup de gens connaissent parce que on peut pas passer à côté. C'est un logiciel qui est très répandu. Illustrator, c'est un peu différent. Alors là, j'ai ouvert une page par exemple de La Marche du Crabe tome 3. Et vous voyez là, je sélectionne tout ce qu'il y a sur la page et ça fait ça. Et alors vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ce truc bleu ? Eh bien c'est tout simplement parce que c'est un logiciel vectoriel. Vectoriel, ça veut dire que il n'y a pas vraiment de traits, c'est que c'est un amas de formes, et chaque forme est composée de points et de courbes. Voilà, donc là on est complètement dans les maths, là on est dans les... Je pensais jamais un jour retrouver avec plaisir le mot tangente, etc. Mais... Bon, il se trouve que ça, les courbes qui forment comme ça les objets s'appellent des courbes de Bézier. Je sais que c'est pas hyper spectaculaire ce que je suis en train de montrer, mais tout est composé de toutes ces formes. Voilà, on peut tout déplacer. En fait, c'est le principe, c'est vraiment comme du papier découpé. Où on crée des formes et on les découpe, on les place les unes derrière les autres, etc., etc. Et surtout, vous avez pu vous rendre compte, on peut zoomer à l'infini. Là je crois que je peux pas zoomer plus, mais faut savoir que là on est de l'ordre du peut-être du millimètre ou du demi-millimètre, enfin c'est voilà, et moi ça me fascine déjà tout ça de pouvoir travailler sur ce genre de support. Je vais vous dessiner un truc parce qu'en fait c'est quand même beaucoup plus simple pour expliquer comment ça marche. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Vous avez une idée de choses à dessiner, par exemple un crabe? Je vais dessiner un crabe. Donc voilà, il faut que je montre ça. J'utilise une tablette graphique, pour ceux qui connaissent pas. Alors ça, c'est un vieux modèle, hein, ça marche avec un stylet. Donc c'est le même principe que, finalement, c'est le même geste que pour du dessin. Hein, c'est-à-dire, sauf que quand on dessine une forme, on peut toujours la modifier. Alors, donc un crabe, c'est pas très compliqué. Truc que je fais pas, par contre, sur les crabes, mais je vais le faire ici, c'est le petit reflet sur les yeux. Bon, ça fait toujours son petit effet, voilà, c'est très joli. Donc ça, c'était un crabe, je le groupe, voilà, ça y est, maintenant, il est là.
Par contre, alors, dès qu'il s'agit de dessiner...
Oui. Applaudir.
Je vais vous montrer maintenant
On peut avoir une armée d'orques.
Non. Je vais vous montrer un peu maintenant un personnage humain. Je vais vous montrer. Pour vous montrer que ça peut être un peu plus complexe que ça, notamment au niveau des ombres sur le visage. Parce que là, le crabe, il est très en aplat, il a un côté un peu rétro. Donc voilà, il est assez simplifié. Je vais par exemple faire le personnage de Francis Von Blot, qui est le vampire, le directeur de Zombilennium, qui est évidemment beaucoup, un peu plus réaliste. Et je vais commencer par dessiner une forme. Alors là, je pense que pour l'instant, vous ne savez pas encore ce que c'est. Bon, évidemment, d'habitude, je ne dessine pas tout d'une traite comme ça. Là, et du coup, il y a quatre formes. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Évidemment, après, je peaufine. Bon, je vais rajouter... J'ai rajouté un sourcil. Bon, il faut savoir que là, pour l'exemple, je vous ai fait un éclairage. Il a un éclairage qui vient d'en haut à gauche. D'habitude, je fais toujours un éclairage qui vient de... Plutôt un éclairage qui vient de face, quoi. Enfin, voilà. Donc ensuite, évidemment, bon, je rajoute les yeux, etc. Mais voilà. Bon, je vais faire un petit personnage de péché mignon, quand même. Voilà.
Il y a des enfants dans la salle.
T'inquiète pas, ouais, c'est... Je fais attention, voilà. Si tu veux, je mets une masse devant comme ça va. Voilà. Donc là, c'est très simple. Donc là, je dessine les yeux. Enfin, les yeux ont toujours une forme un peu. Et d'ailleurs, même la tête, tout a un peu une forme patatoïde. Mais j'essaye toujours, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand je dessine là cette forme, je repasse avec le crayon dessus. Parce qu'il faut savoir qu'une forme n'est jamais définitive. Hein. On peut toujours la resélectionner, on peut toujours sélectionner un point, le tirer comme ça. Donc, quand je dessine une forme, je repasse pour l'affiner. On peut l'affiner comme ça, ce qui est... c'est vraiment un côté appréciable d'Illustrator, d'ailleurs. Et alors, donc là, il y a les yeux... comme j'ai envie de lui faire les yeux mi-clos, un peu pour lui donner un regard, pour lui donner des yeux de biche, je vais utiliser le cutter pour couper. Donc c'est un peu, je sais que c'est un peu gore de couper des yeux comme ça. Vous voyez, là c'est coupé, c'est-à-dire que il y a quatre formes. Alors je vais sélectionner les deux formes du haut. Là, je vais faire un truc un peu compliqué, mais c'est-à-dire que je vais faire un dégradé de forme. J'utilise pas toujours des dégradés, j'en utilise pas dans les crabes, par exemple, mais j'en utilise dans Péché Mignon, notamment pour faire le fard à paupières, parce que je considère que ça fait vraiment partie de la féminité. Bon, on a un peu l'impression de jouer à la poupée, parce qu'on peut aussi changer les couleurs de chaque forme. Par exemple, hop, je fais du fard à paupières rose. Enfin, et c'est ça, en fait, c'est vraiment, ça permet de enfin, rien n'est définitif, quoi. C'est un peu comme du dessin vivant où tout est sujet au changement en permanence. Et donc ça, c'est quand même aussi vachement appréciable. Donc pour les cheveux, c'est assez simple. En fait, il y a toujours, la plupart du temps, une masse de cheveux devant qui est là. Bon, on va dire qu'elle est rousse, hein, par exemple. Et une masse de cheveux qui est derrière, mais que je suis obligé de dessiner devant dans un premier temps. Voilà, et que ensuite je recule derrière. Voilà. Et donc là, en fait, on n'est pas très loin d'avoir fini. C'est-à-dire que bon, après, il faut dessiner, le corps. Alors j'ai bien compris qu'il y avait des enfants dans la pièce, donc je mets ça. Et par contre, bon, je sélectionne quand même ce qu'il y a derrière. Mais ce qui rend le truc encore plus érotique, en fait, parce que du coup, c'est suggéré. Alors, voilà, donc là, je vous ai montré un peu l'essentiel de comment fonctionne Illustrator. Je vais juste terminer par vous montrer, par exemple, une planche de Zombilennium. Tout a été dessiné de la même manière, mais évidemment, ça a pris du temps, hein, parce que là, il y avait vraiment beaucoup de détails. Là, regardez, je zoome sur... sur ce crâne. Il faut savoir que dans la BD, je sais pas s'il y a un exemplaire, mais ça mesure peut-être, je sais pas moi, un millimètre, quoi. Je me suis fait un peu avoir parce qu'en fait, c'est un logiciel qui permet de zoomer en fait à l'infini. Donc parfois on peut passer trois plombes sur un détail et qui en fait voilà mesurera juste quelques millimètres sur l'image. Enfin d'ailleurs c'est pour ça que j'aimerais un jour qu'il y ait une édition en plus de Zombillenium qui soit en format énorme pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans les dessins. Et je me suis fait avoir notamment ici avec parce que évidemment moi j'ai adoré dessiner les bâtiments et tout donc et en fait là j'avais parmi dans le décor j'ai mis une fontaine, il y a une fontaine qui représente une espèce de pendu qui crache du sang. Moi j'étais très fier de mon idée sauf que quand c'est paru dans Spirou mais c'est tout juste si on voyait pas si on voyait ce que c'était en fait parce que c'est là on est dans voilà, là on est en dessous du millimètre en fait. Donc du coup, la tête du mec, enfin, du pendu, on la voyait même pas. Et mais pour autant, c'est vrai que je trouve que ça fait partie des côtés sympas de se dire qu'il n'y a pas vraiment d'échelle et qu'on peut rentrer à volonté sur les dans n'importe quel détail. Bon alors ça suppose évidemment parfois qu'il faut beaucoup de boulot, etc. Mais faut évidemment éviter de passer trois plombes sur plein de détails. Bon là, les personnages qu'on voit de la foule, j'ai pas dessiné non plus leurs yeux, leur nez, leur bouche, parce que sinon j'y serais encore quoi. Mais voilà. Donc ma façon de travailler, c'est que c'est exactement ce que je viens de vous montrer avant, avec cette technique un peu issue du papier découpé. Et ensuite, les personnages, je les place dans un décor, je place les éléments devant, derrière, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et ben, je crois que j'ai à peu près tout dit, donc on va pouvoir...
Ouais. Merci beaucoup. Ben on va pouvoir commencer à passer un peu aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions à poser à Arthur sur ses bandes dessinées, sur, bah sur sa technique? Je crois qu'on a bien vu un peu comment il travaillait. Non. Bon, alors on va poursuivre l'émission.
Ah, il y a une question.
Ah, si, une question. Par là. Alors attends, je t'amène le micro, j'espère que j'ai un fil assez long.
Vous disiez tout à l'heure que vous faisiez venir les lumières de devant, si je me trompe pas, sur vos personnages.
Quand oui. Alors ça, c'est parce que, en fait, quand je fais venir les lumières, c'est une façon de parler. Mais disons que je fais jamais d'éclairage, ou alors très exceptionnellement d'éclairage sur le côté ou de. En fait, voilà. C'est-à-dire que quand je dessine un personnage, donc il y a la tête, le cou, qui sont de la même couleur. Or, il faut bien départager les deux. Et comme j'utilise pas de trait, du coup, je fais toujours une ombre sous le cou qui a un peu toujours la même orientation, enfin, qui est toujours une espèce d'arc, un peu comme ça. Et quand je dis que je fais venir la lumière du devant, c'est-à-dire que c'est comme si, par défaut, l'éclairage était un éclairage un peu frontal. Enfin, c'est-à-dire que je fais pas d'éclairage latéral avec une partie de visage à l'ombre et l'autre à la lumière, parce que j'ai pas envie de rentrer trop dans le réalisme en fait. Donc pour moi c'est une façon que j'ai trouvé de rester un peu entre de l'ombre et du trait, de rester entre du style BD et du réalisme. Enfin c'est voilà, parce que si je commence à dessiner des ombres, enfin à dessiner vraiment un éclairage très réaliste, par exemple là, ça voudrait dire que si je dessine un visage là, il serait éclairé par dehors, par les petites lampes, les machins et tout ça. Là après, on tombe dans le réalisme, mais je trouve qu'on, c'est pas ce que je souhaite en fait. Moi, je souhaite quand même garder un côté un peu pop, un peu à plat et tout ça. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais voilà.
D'autres questions?
Ouais. Par instant, juste, je continue. Mais du coup, le vectoriel, en fait, te permettrait d'arriver à quelque chose de beaucoup plus réaliste, si tu le souhaitais, ou ça demanderait vraiment beaucoup trop de travail?
Justement, je pense qu'on peut, en y passant du temps, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Et justement, moi, ce que je trouve intéressant avec le vectoriel, c'est que ça empêche de la tentation d'aller vers le réalisme, en fait. En fait, je compare souvent ça si on compare avec la musique, on va dire que, bon, une technique traditionnelle, ça va être, par exemple, du piano. Voilà, du piano à queue, ou ça, on va dire que c'est de la peinture. Photoshop, ça va être un synthé qui permet de faire 40 milliards de sons différents. Voilà. Et ben, Illustrator, pour moi, ça va être un peu un Fender Rhodes ou un orgue, un vieil orgue, Wurlitzer, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que il y a un son hyper particulier, qui est propre que à ce logiciel, enfin que à cet instrument, et qui n'est fait que pour jouer de ce son en fait. C'est-à-dire que Illustrator, c'est fait pour faire avant tout du Illustrator. C'est pas fait pour aller dans le dans le réalisme à tout prix. Dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser Photoshop. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que ça permet de garder un... C'est un peu une espèce de garde-fou. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans un côté très... un peu rétro, un peu pop, un peu coloré. Moi qui me plaît. Et sans être tenté d'aller vers le... Ce que je disais sur les ombres aussi tout à l'heure. Enfin, d'aller vers quelque chose d'hyper réaliste. Parce que moi, je suis pas très fan de l'hyper réalisme en BD. Je trouve que j'ai du mal à rentrer dedans, personnellement, en tant que lecteur. Donc voilà. Donc je trouve que c'est un côté vraiment... que j'aime beaucoup aussi chez Illustrator.
Ouais, des questions ?
Vous avez il y a quelques années fait plusieurs courts-métrages, donc il y a La Marche du Crabe. Il y en avait un dont je ne me souviens plus du nom, mais c'était une fille qui se transformait en homme, je crois.
Oui,
exactement.
Géraldine, ouais, ça s'appelle.
C'est
ouais.
Très très drôle. Est-ce que vous avez parlé donc d'une sortie peut-être en film de Zombielium? Est-ce qu'avant un long métrage, on peut s'attendre dans les années à venir à retrouver des courts-métrages? Est-ce qu'on peut s'attendre à retrouver des courts-métrages que vous réaliseriez dans
que je transforme un de mes courts-métrages en long-métrage, c'est ça?
Non, que vous réalisiez
que je refasse des courts-métrages. Non, parce que enfin c'est pas, disons qu'un court-métrage c'est très enrichissant, très sympa à faire, mais ça demande entre 2 et 3 ans de boulot, dont parfois un an voire même plus uniquement où le but c'est de chercher des subventions. Et on passe un temps monstrueux. Ça m'est arrivé, pas pour le court-métrage que tu as cité, mais pour un autre où j'ai passé presque 2 ans à monter des dossiers, à aller à droite à gauche avec mon dossier sous le bras. Oui, bonjour, j'aurais besoin de telle somme pour finir mon film, etc. Et ça prend un temps de dingue. Et en fait, le pire, c'est que parfois, une fois que les subventions sont obtenues, on n'est plus dedans, quoi. On n'a plus envie. On est déjà passé à autre chose. En fait, j'ai fait donc Géraldine, ce court-métrage. Ensuite, j'en ai fait un autre. Et ensuite, j'ai fait celui des crabes. Et celui que j'ai fait entre les deux, qui s'appelait L'eau de rose, j'en suis pas très fier. Je trouve qu'il est un peu raté parce que justement, j'ai passé trop de temps dessus. Et à la fin, j'en avais marre. Et je pense que ça se ressent. Alors que la BD, ce qui est bien, c'est que, hop, on a une idée. On propose à un éditeur. Il dit oui ou il dit non. Et s'il dit oui, c'est parti pour un an et à faire que ça. Et donc, c'est beaucoup plus spontané, quoi. Il n'y a pas cette phase hyper rébarbative de trouver des sous et de faire des ronds de jambes au CNC et compagnie, quoi.
Ok, merci. Alors, j'avais encore des tonnes de questions.
Mais il reste un quart d'heure, non?
Mais on est la deuxième partie de
l'émission. On a encore 2 heures de questions.
Gros malade. Et donc, on va passer à la deuxième partie de l'émission.
Attends, donc là, c'était juste la première partie.
Ouais, mais la deuxième est vachement plus courte, tu vois.
oui.
Là, c'est la pause, vous allez chercher des sandwichs et puis on se retrouve.
Alors, je t'ai demandé de me parler un peu des BD qui t'avaient influencé ou marqué récemment. Alors, tu m'as dit qu'il y a peu de BD qui t'avaient influencé parce que tu étais venu tardivement, que tu t'es, vraiment dans la BD, que tu t'es surtout inspiré de l'illustration, de la publicité, etc. Mmh. Ce qu'on voit d'ailleurs beaucoup dans La Marche du Crabe, il y a un côté affichiste, années 70, qui est très présent. Et donc, tu m'as donné des bandes dessinées qui t'ont marqué récemment. Donc, ce sera les conseils BD d'Arthur Depince.
Voilà.
Donc, tu nous as parlé, par exemple, de Quai d'Orsay. Alors, Quai d'Orsay, on en a beaucoup parlé. Il y a une adaptation film qui est prévue peu avec
Thierry Lhermitte.
Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette BD? Qu'est-ce qui t'a touché dans cette bande dessinée?
Alors, j'adore Christophe Blain. Enfin, je trouve que c'est vraiment un de mes auteurs préférés. Et j'adore surtout... j'adorais Quai d'Orsay. J'aime beaucoup Gus aussi. Une série qu'il a faite un peu dans l'univers du western. Mais ce que j'adore, c'est qu'il a des personnages très expressifs et il arrive à montrer une émotion rien qu'avec une pose. Ces personnages s'expriment pas seulement au niveau de la tête, mais aussi au niveau du corps. Et moi, je connais deux auteurs en fait qui arrivent à faire ça. Il y a lui et Catherine Meurice aussi, qui est une illustratrice de Charlie Hebdo, qui arrive à vraiment donner une expression, à faire des personnages qui s'expriment avec leurs bras, leurs jambes, ce qui est pas forcément évident. On n'y pense pas toujours, hein. Quand on pense expression, on pense visage. Eux, ils arrivent à rendre les choses, à rendre tout expressif. Même dans Quai d'Orsay, quand à un moment le personnage, le ministre rentre dans une pièce, on voit il a une main énorme qui pousse la porte et après il y a une image où on voit une espèce de train une espèce de train à vapeur qui fonce sur des rails, et donc on comprend que c'est lui, c'est un type qui s'arrête jamais, qui va toujours. Enfin, c'est vraiment hyper expressif. Il a vraiment des codes à lui, et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ça. Et je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup de lire ses BD.
Et en voilà. Plus, ça a été primé à Angoulême.
Oui, notamment, voilà, il a gagné, le tome 2 a gagné le prix du meilleur album à Angoulême.
Yo. Après, donc, tu nous as parlé aussi du singe de. Alors là, je ne sais pas le prononcer.
Hartlepool.
Hartlepool, donc, qui est un singe déguisé en Napoléon, on va dire.
Alors, c'est basé sur une légende d'une ville anglaise qui s'appelle Hartlepool, et ça se passait pendant la conquête napoléonienne, où donc la France et l'Angleterre, évidemment, étaient les grands ennemis, les grands rivaux. Et en fait, c'est un. Il y a un bateau anglais qui est au large d'un petit port anglais comme ça dans la Manche, et le bateau est coulé, je crois, et le seul survivant du bateau, c'est un singe qui était un peu la mascotte du bateau. Enfin, c'était un singe déguisé en soldat napoléonien, donc avec le truc bleu, le bicorne, etc. Et le bateau est coulé, et le seul survivant, c'est le singe qui se retrouve qui s'échoue sur les côtes anglaises. Et le petit village anglais, en fait, ils ont, voilà, ils savent qu'il y a une guerre contre les Français, mais en fait, ils ont jamais vu de Français. Et ils voient ce singe habillé avec le costume, et ils sont persuadés que c'est un Français. Voilà, c'est un Français, c'est ça. Et alors, du coup, ils lui font un procès. C'est assez cruel, hein, comme fable. Hein, mais en même temps, c'est une super belle fable. C'est une très très belle BD. Le dessin est excellent. Je vais pas raconter la fin, mais vraiment une fable sur la bêtise, sur la c'est tiré d'une histoire, alors je sais pas si c'est une histoire vraie ou pas, mais en tout cas c'est un one shot, c'est-à-dire un album sans suite, voilà, c'est juste un album comme ça, et je vous la conseille très fortement.
De ce point de vue là j'avais trouvé que justement il y avait un gros point commun avec La Marche du Crabe,
il y a un côté, je pense, fable,
traiter la bêtise par la fable,
enfin, en tout cas le but est le même, oui, c'est sûr.
Donc c'est chez Delcourt et c'est par Wilfried Lupano et Jérémy Moreau.
Voilà.
On va prendre une dernière BD parce que...
Oui, on en aura pas.
Monster.
Monster. Alors ça, c'est... Alors Monster, c'est un... Il faut savoir que je ne suis pas plus fan... C'est un manga. C'est une BD japonaise, une série. Il y a 18 tomes, donc ça a l'air des petits bouquins qui sont épais comme ça. Je ne suis pas un énorme fan de manga, mais il faut savoir que c'est... quelque chose qu'on... Moi, c'est un pote, une fois, il y a 10 ans, qui m'a dit « Ah, tu connais Monster ?» Je dis « Non. » Il me prête les 3 premiers et il me dit « Dans une semaine, tu vas m'implorer, tu vas te mettre à genoux pour me réclamer la suite. » Je fais « Ouais, c'est ça. » Bon, bah, finalement, je me suis pas mis à genoux parce que j'ai ma fierté, mais je lui ai effectivement réclamé la suite vraiment en insistant parce que j'ai trouvé ça génial. En fait, c'est un thriller qui se passe en Allemagne. Parce que l'auteur, donc Naoki Urasawa, est japonais, mais il a vécu longtemps en Allemagne, donc il connaît bien l'Allemagne, il connaît bien l'Europe. C'est un remarquable dessinateur, donc même les visages sont super bien faits, super bien dessinés, hyper expressifs. Et c'est en fait c'est une histoire de tueur en série dans l'Allemagne, avec où il fouille en plus dans le passé de l'Allemagne communiste, mais aussi de l'Allemagne nazie et de l'Europe en général. En fait, il fouille vraiment les démons de l'Europe. En fait, c'est ça qui est assez dingue. Chose que les auteurs européens, d'ailleurs, ont du mal à faire. Et ben lui, il a réussi. Et c'est surtout un thriller qui est vraiment hyper noir, mais qui est vraiment passionnant. Et d'ailleurs, moi, c'est une BD que je conseille, enfin que je prête. Comme l'a fait cet ami à l'époque, c'est-à-dire que je prête un tome ou deux à des amis et ils se mettent à quatre pattes pour me réclamer la suite, évidemment.
C'est ça qui est bien, en fait.
En fait, c'est ça que j'adore. Voilà, si vous voulez voir des gens à genoux devant vous en train de se prosterner, bah, prêtez-leur Monster. Et en fait, donc et des gens qui non seulement les gens adorent, mais non seulement les gens qui n'aiment pas la BD en général, mais même pas le manga en particulier, enfin, qui sont pas du tout BD et ça, voilà, ça s'est répandu comme un virus. Et alors, pour ceux qui connaissent Monster, et ben la bonne nouvelle, c'est que ça va devenir une série produite par HBO et réalisée par Guillermo del Toro. Donc, je vous conseille de lire cette BD.
Avec un scénariste de Sherlock, la série Sherlock, pour ceux qui connaissent.
Voilà, en plus. Et donc voilà, donc soit vous êtes impatient, vous achetez la BD, soit vous attendez que la série existe, mais en tout cas c'est vraiment une pure merveille.
Alors
voilà.
Pour ceux qui veulent en savoir plus, donc c'est l'histoire d'un médecin qui sauve un enfant, qui 15 ans plus tard devient une espèce de gourou, de tueur en série.
Mais on sait pas vraiment.
Ouais. Et qui donc essaie de retrouver cette personne pour l'arrêter. Voilà. On en a parlé longuement dans une émission, on avait reçu Alexis Orsini, qui est un spécialiste de Naoki Urasawa, qui avait publié un livre, Mouton électrique, sur l'auteur.
Ah oui, ok.
Nous allons passer maintenant à nos questions à la con.
Ah non, j'aime pas ça.
Très à la con.
Oui, en fait, nous allons...
Est-ce que j'ai un joker ?
Oui, tu as autant de jokers que
j'ai
tu
autant
veux.
De jokers que je veux.
Ouais.
Tu l'utiliseras qu'après l'émission.
D'accord, non mais...
Nous allons te dire deux mots, et tu vas devoir en choisir un. Tu as le droit de t'étendre, de t'expliquer.
Ça, c'est pour toutes les questions. Ouais, j'ai... Ah, d'accord.
C'est ça,
okay.
Les questions. Il y en a
et j'ai le droit, faut que je me justifie ou je dis juste
si
le mot.
Si t'as envie de te justifier, vas-y. Okay. Sinon.
Ouais. Vas-y, réponds au hasard, on s'en fout. Hein.
Alors, on va y aller. Attends, je te laisse commencer, je prendrai la suite.
Hergé ou Franquin ? Ça commence bien.
Alors, Franquin, mais bon, évidemment, Hergé, c'est un peu la. C'est un peu le papa de tout le monde, mais Franquin, oui, parce que voilà, c'est. Bon, j'ai envie de dire les deux, je sais que j'ai pas le droit de dire les deux, donc je vais dire Franquin quand même. Voilà.
À moteur ou à plume ?
À moteur ou à plume ?
On a dit que c'était des questions à la con. Hein.
Alors là. À moteur, voilà.
Développe, s'il te plaît.
Non, je pense que c'est
bah, d'abord, vous développez, ensuite je développe. D'accord, oui. Hein.
Soleil ou l'association ?
Ah, alors ça, vraiment, c'est bon. Non, mais je vais évidemment dire Soleil, puisque ce sont eux qui publient les crabes, tout bêtement, et que l'association, d'ailleurs, je sais pas si je leur avais envoyé les crabes, je sais plus, mais enfin, en tout cas, si c'est le cas, ils l'ont pas retenu. Donc je vais dire Soleil, parce que, voilà, je suis très fidèle à aux gens à qui je travaille, voilà.
Slip ou caleçon ?
Caleçon. Non, mais où ?
Homard ou langouste ?
Omar, c'est quand même meilleur.
Blonde ou brune ? Ça, on peut parler de tout hein, là-dessus. Hein. Tu peux mettre ce que tu veux comme mot derrière.
De toute façon, ça n'engage en rien.
Enfin, ouais, c'est ça.
Non, mais tes petits-enfants, ils comprennent.
Blonde.
Batman ou Superman ?
Allez, Batman, parce que je trouve que Superman est vraiment trop ridicule.
Ah, le quoi, c'est le slip rouge ?
Non, mais, enfin, non, mais c'est normal. Même, enfin, lui, enfin, je sais pas, bon, enfin, c'est, voilà.
Xbox ou Wii ?
Ah non, alors là, vraiment, je vais dire Joker, parce que j'ai, en fait, alors, je jouais aux jeux vidéo jusqu'à la Mega Drive, mais j'ai complètement arrêté.
Je vous parle d'un temps, non, oui, moins de 20 ans.
La Mega Drive, alors qu'est-ce que la Mega Drive ? C'est l'ancêtre de la Xbox, voilà, c'est en fait, et quand les jeux vidéo sont passés en 3D, c'est marrant, j'ai complètement laissé tomber du jour au lendemain, en fait je joue absolument pas aux jeux vidéo, donc là, voilà.
Noir et blanc pas cher ou couleur de luxe ?
Tu parles de BD ou...
Ouais, de BD en fait. Qu'est-ce que tu préfères comme tirage ? Avoir un noir et blanc qui coûte pas cher ou avoir des belles couleurs,
tu vois, Monster,
un beau tirage ?
Monster, typiquement, c'est en noir et blanc, c'est pas cher, mais ça a pour moi plus de valeur que certains trucs de couleur, de luxe qui
des
sont
noms, des noms
rébarbatifs. Ça y est, j'ai dit Monster. Voilà. Donc non, je vais dire... en même temps, moi je suis bien content que mes trucs soient en couleur et sur du beau papier, donc bon, couleur de luxe alors, je vais dire. Bon, voilà.
T'es au café ?
Oui. Pardon. C'est quoi ? Oui, je suis au café toute la journée. Non, café. Ouais.
Trondheim ou Larsenet ?
Ça fait penser aux questions un peu de d'Ardisson quand il demande ouais. Hitler ou Staline. Enfin, je sais pas. Non, c'est,
Hitler ou Staline ?
Non, mais c'est ça. Non, écoute, Trondheim ou Larsenet. Joker, voilà. C'est,
ouais. Donc je sape la suivante ouais, parce que là, du coup, elle a plus de lien. Numérique ou traditionnel ?
Forcément, facile.
Oui, là, numérique, forcément.
Bière ou pastis ?
Pastis.
C'est bien.
Je dis pas ça parce que je suis ici, mais oui, vraiment.
Dans le Nord, il dit bière. Hein.
Oui, bah ouais, normal.
One Shot ou Saga ?
Saga.
Blur ou Oasis ?
Blur.
Donald ou Howard the Duck ?
Donald, non, parce que l'autre, je ne me plais pas, Howard, il est malsain, je le déteste.
Il est méchant !
Ouais.
Atari ou Amiga ? Là, ça va, tu...
Ah,
c'est bon, tu gères ?
Non, mais t'aurais dû dire Sega ou Nintendo. Enfin, ouais. Bon, voilà. Bon, Atari ou Amiga ? Atari, parce que c'est ce que j'avais, voilà.
Toriyama ou Otomo ?
Otomo.
Otomo. Ok, bah on en a fini avec notre questionnaire. Bon. Tu vois, c'était
oui, ça allait, ça allait.
C'est soft.
Non, mais juste pour revenir sur Trondheim et Larsenet. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Il y a pas de souci. Voilà, mais je saurais pas dire entre les deux parce que à la base, c'est pas le type de BD que je. Enfin, ce sont pas des influences. Hein, c'est pas. Mmh. J'ai pas l'impression d'appartenir un peu au même type de d'auteur. Enfin, de chapelle, on va dire entre guillemets. Voilà. Donc c'est pour ça que je serais bien en peine de dire lequel des deux je préfère parce que voilà.
Ok, bah merci à toi. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut suivre ton actualité sur Internet?
Alors il y a, oui, j'ai une page Facebook qui a, j'aurais dû l'appeler tout bêtement Arthur de Pins, mais en fait ça s'appelle Arthur de Pins apostrophe artwork and bande dessinée.
Le truc facile, quoi.
C'est débile, non mais.
Alors, tu es dans une école de commerce, tu dois avoir des conseillers en communication, si tu veux.
Non mais là parce que oui, effectivement, j'aurais peut-être dû demander conseil parce que bande dessinée est écrit à la fluide glaciale, c'est-à-dire bande dessinée en un seul mot. voilà, c'est là. C'est là généralement que je mets tout, même les trucs en cours et tout ça, parce que bon, c'est vrai que Facebook c'est quand même vachement pratique. Mon site, c'est plus une vitrine qu'autre chose, il est pas du tout mis à jour, donc voilà. Donc c'est surtout Facebook voilà, prochaine news, c'est la sortie du tome 3 de Zombilennium qui aura lieu le 18 novembre prochain. Voilà.
On y sera. Oui. Voilà. Bah, merci à tous d'avoir été présents.
Oui, merci d'être là.
Si vous êtes intéressé par réécouter cette émission, elle sera bientôt en ligne sur notre site lavoixdesbulles.fr que vous pouvez aussi suivre sur Twitter, sur Facebook. Nous, c'est La Voix des Bulles sur Facebook. On a fait simple. Voilà. Merci à tous. On vous souhaite un bon festival. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Au revoir.
Merci.
Cette rencontre avec Arthur de Pins. Alors, nous sommes Mathieu, Pierrick et Thierry et Arthur de Pins ou de Pins ?
De Pins.
De Pins. Oui. Donc voilà, on a toujours un doute. Hein.
Ah oui, non, mais c'est normal, mais tant qu'on ne dit pas de Pins, ça va. De Pins, je tolère, voilà, mais c'est de Pins. Voilà.
Alors nous, on fait un podcast audio, c'est-à-dire une émission qu'on peut écouter sur Internet et sur iTunes. Et donc, ce qu'on enregistre aujourd'hui sera disponible sur Internet. On vous permettra de poser des questions, on vous donnera la parole si vous avez des questions pour Arthur en cours d'émission. On a un micro que Thierry fera passer dans la salle. On vous demande juste d'essayer de bien parler dedans pour qu'on vous entende. Moi, je viens de me débrancher. Et donc là, on va lancer l'émission. Il y a un petit jingle et tout devrait bien se passer.
Clap de début, première.